wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Pascal Bénard. Réalisation Daniel Finot. Et ce soir, Iris Bray et Romain Burel se font face. À notre affiche, Twin Peaks, saison 3 de David Lynch et Mark Frost. Le Bureau des Légendes, saison 3, Eric Rochant. Et Sense8, saison 2, Lana et Lily Wachowski avec Joseph Michael Straczynski. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera à le suivre dans le petit salon pour parler de l'ubérisation des sous-titrages de séries. Et puis bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France, jusqu'au 24 septembre au Grand Trianon du château de Versailles. Et nous ouvrons cette émission avec le retour le plus attendu de tous les temps pour une série. Je veux bien sûr parler de Twin Peaks. Dans les deux premières saisons, révolutionné à jamais les petits écrans. C'était au début des années 90. Ni Iris, ni Romain, ni Xavier n'étaient nés, presque. On se reverra dans 25 ans, avait promis Laura Palmer à l'agent spécial Dale Cooper. David Lynch a tenu promesse, ou presque. 26 ans, c'est par... cette suite de la promesse, mais le cinéaste Palmer a lui-même réalisé les 18 épisodes de cette troisième saison, ce qu'il fallait bien d'éprouver un peu plus notre patience.
If you say drink coffee, I'll drink coffee.
Cup of coffee.
Cup of coffee, please.
I was wondering if I might trouble you for a cup of strong black coffee.
Fellas, don't drink that coffee.
There was a fish in the percolator.
Wait for the tea.
Damn good coffee. And hot.
Wait a minute.
E.J. Cooper loves coffee.
You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. We're gonna need some more coffee.
On va avoir besoin de café pour aller jusqu'au bout de cette saison 3 de Twin Peaks qu'on pourrait regarder à l'affilée, mais heureusement, on n'est pas chez Netflix, donc on n'a pas à disposition les 18 épisodes d'un coup. Je dis heureusement, mais j'adore ça, et sans doute que vous aussi, mais voilà, le plaisir d'une série, c'est aussi d'attendre d'une semaine à l'autre. Pour l'heure, Iris Bray a vu 3 épisodes, Romain Burel et moi qui avons fait notre travail à la maison, en avons vu 4, comme à peu près le reste de la population abonnée à Canal+, qui diffuse cette série, et puis bon, sur le reste de la planète, il y a des moyens, on le sait, différents de voir les épisodes des séries, et puis les amateurs et les connaisseurs ont reconnu dans ce teaser, quel est le mot français déjà? Je vous l'ai déjà demandé, non?
Non.
Quelquefois. L'aguicheur. Dans cet aguicheur, une sorte de montage des deux premières saisons de Twin Peaks qui tournait autour de la question du café, qui était très importante, rien de cette saison 3 dans cette aguicheur. Bon, allons-y sur Twin Peaks saison 3, Iris Bray.
Bah déjà, en écoutant là le petit extrait autour du café, je me suis rendu compte que ce début de saison 3 s'éloigne un peu du côté très drôle qu'il y avait dans ces premières saisons. On est tout de suite plongé dans une autre émotion, l'émotion de voir ces visages qui ont vieilli, de voir le temps qui a passé. Je trouve que du coup, il y a un côté totalement abyssal dès ces premières images, de retrouver même le visage de Laura Palmer, hein, qui dit à Dale Cooper « I am dead, yet I live ». Je suis morte et pourtant je suis vivante. Il y a quelque chose de très troublant dans ce dédoublement du temps et dans ces fantômes qui reviennent nous voir et nous hanter à nouveau. Donc il y a une espèce de de mélancolie et une profondeur assez surprenante. C'est une série un peu retorse au début, hein. Il faut bien le dire que c'est compliqué de... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu compliqué de me replonger dedans. Ça se passe dans plusieurs endroits des États-Unis en même temps, des endroits fictifs, mais d'autres réels, comme New York City, qu'on n'avait pas vu avant. Donc, on est un petit peu baladé comme ça... partout aux États-Unis, et puis on se rend compte assez rapidement que Dale Cooper a aussi un double, voire des doubles, et donc voilà, tout de suite Lynch va rejouer ce thème du double qui était déjà très présent dès le début, mais là c'est un autre voyage, quoi. Je pense qu'il faut être prêt à larguer les amarres et vraiment suivre, se laisser faire en fait.
Romain Burel, premières impressions sur ce début de saison 3.
Moi, j'ai rarement eu aussi peur de me replonger dans une série télé. C'est-à-dire qu'elle était tellement marquante pour moi que de me dire que 25 ans, la télévision a tellement changé, les séries télévisions, c'est une série qui a tellement bouleversé les choses avec X-Files, qui a bouleversé la télévision. Donc j'avais très très peur, et cette peur s'est pas arrêtée avec le premier épisode, que je trouvais très très noir. Il manque cruellement d'humour, entre guillemets, alors vraiment par touche. Et je me disais, j'espère que je vais retrouver ce qui faisait le sel de cette saison, et en même temps autre chose, parce qu'effectivement, le temps a passé. Et en même temps, je suis assez ravi de voir que Lynch continue un travail et que la série me rappelle beaucoup son travail des années 90 avec des films comme Lost Highways et ou Mulholland Drive. Donc il y a quelque chose, je trouve, de très cinématographique qui me plaît beaucoup et qui continue un travail qu'il a commencé depuis très longtemps. Moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est effectivement, comme l'expliquait Iris, c'est de voir le temps qui a passé sur les visages de ces acteurs. Il y a quelque chose de bouleversant de voir, de retrouver la femme à la bûche, dont l'actrice est morte quelques temps après le tournage de la série.
Surtout la monteuse de David Lynch depuis pendant 40 ans.
Voilà, je trouve ça bouleversant de voir les traits passés, vieillis de Laura Palmer, et de voir le physique vraiment épargné de l'agent Dale Cooper, pour le coup. Je trouve que la série, elle gagne un petit peu dans les épisodes suivants. On retrouve ce ton un peu plus truculent, avec des choses un peu plus légères, un humour un peu entre Buster Keaton, des choses comme ça, des choses qui plaisent beaucoup à Lynch plus tard dans la série, ce qui, moi, m'a assez ravi. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on quitte Twin Peaks, on n'est plus qu'à Twin Peaks, et en élargissant son terrain de jeu, faut pas s'attendre à ce que on réponde à des questions. Moi, ce que j'ai compris, en tout cas dans les 4 premiers épisodes, c'est que Lynch allait pas répondre à des questions qui étaient posées dans les 2 premières saisons, qu'il allait probablement nous en poser d'autres, en fait, ce qu'il adore faire finalement dans ses films. Et donc j'aborde cette série en me disant, en totale confiance en lui, en me disant que de toute façon on va probablement avoir des tranchées dans le vif, en sachant par exemple sur cette question un peu trouble de savoir qu'est-ce que c'est que ces entités qui possèdent les gens, etc. Est-ce qu'on parle de folie ou est-ce qu'on parle vraiment de possession démoniaque? Parce que je crois que c'est pas encore tout à fait tranché. Mais je lui fais absolument confiance, en tout cas, sur cette nouvelle saison.
Alors, question posée d'abord, mais il semble qu'il y avait quand même eu beaucoup de réponses dans les 2 premières saisons, malgré tout. Alors, effectivement, il y a tout un tas de nouvelles questions qui se révèle. Évidemment, pas question d'avoir un avis très définitif en ayant vu 4 épisodes d'une saison qui va donc en compter 18. Terme cinématographique, je trouve beaucoup plus proche de Inland Empire, qui est le dernier film pour cinéma de David Lynch. Pour moi, par exemple, le début du troisième épisode de cette saison 3 est cinématographiquement d'une beauté, d'une étrangeté, d'une absolument renversante. Vraiment, j'ai trouvé ça... J'ai rarement vu des images comme celle-ci. Ça m'a fait penser un peu à certains plans de Guy Madin, mais ce qui est plutôt un compliment. Mais ça, je crois que vraiment, et ça s'inscrit dans la suite d'Inland Empire. Mais puis il y a chez Lynch aussi ça depuis Eraserhead, depuis le premier film, a travaillé sur le son qui est quand même extraordinaire. Sound design, l'expression anglophone pour une fois me paraît. C'est juste,
c'est
vraiment
une de... même, d'ailleurs.
Oui, c'est lui qui est le sound designer, il est crédité comme cela au générique, entre autres choses qu'il fait. Non, ce qui est certain, en tout cas pour relancer le débat là-dessus, c'est que il jouit d'une liberté absolument totale et qu'il s'en sert vraiment, il fait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal, et c'est certain, Iris Bray, à se à se positionner en tant que spectateur, parce que comparé au Cru 2017, les deux premières saisons de Twin Peaks, c'était extrêmement simple, extrêmement lisible d'un point de vue narratif. On arrivait vraiment à comprendre les choses, y compris dans la façon dont c'était aussi joué. Les mécanismes narratifs, ils sont autrement complexes, Iris.
Oui, d'ailleurs, ce début de l'épisode 3 vraiment fait référence au cinéma surréaliste, mais aussi à la littérature surréaliste. Et moi, ça m'a vraiment fascinée, puisque qu'est-ce que c'est finalement que le surréalisme ? C'est de voir le sens qui arrive quand on juxtapose deux images ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était qu'on laissait, en fait, il réinvente le genre de la série, à ce moment-là, pour moi, parce qu'on laisse l'expérience collective. C'est-à-dire qu'on peut plus se rassembler autour d'un café et parler de qu'est-ce qui s'est passé hier soir dans Twin Peaks. Ce n'est, on n'est plus dans une narration qu'on peut raconter de l'agent Dale Cooper. On est dans la juxtaposition d'images et du coup, ça crée un sens très individuel. C'est-à-dire qu'on va chacun créer sa propre image et le propre sens de ce qu'on voit. Et du coup, c'est là où je trouve ça fascinant, et je trouve qu'il y a un vrai discours qui se met en place sur qu'est-ce que c'est que la série aujourd'hui, discours qu'il avait déjà commencé avec Twin Peaks, c'est qu'en délaissant le côté soap-opéra dont il se moquait, mais qui était quand même présent au début de la série, et en allant vers quelque chose de beaucoup plus surréaliste, il nous responsabilise et il nous force à nous créer notre propre histoire et notre propre sens. Et du coup, dans ce vécu qui devient un vécu qui isole, qui nous isole des autres, puisqu'on va plus être dans le partage de la série, mais dans une expérience extrêmement intime de ce que l'on voit et de ce qu'on ressent, je pense qu'il est en train de pousser, en fait, l'enveloppe sérielle là où moi, j'ai jamais encore vécu ça. Et je trouve que là, et du coup, d'utiliser la forme et d'utiliser des codes surréalistes, même ce visage de femme qui n'a plus Dieu, qui rappelle Franju, enfin, il y a énormément de choses, et j'ai pas l'impression que ce soit là juste pour faire de la citation ou pour nous rappeler qu'il y a eu d'autres avant lui. On a l'impression que c'est vraiment ses codes personnels d'expression et que c'est ce qu'il traverse et le passionne. Et du coup, c'est une expérience absolument unique, je trouve.
Alors peut-être une réserve pour introduire un peu aussi de discussion là-dessus, c'est sur la dimension soap opera qui était présente dans Twin Peaks d'une façon, alors, transcendé ou en tout cas biaisé avec un petit décalage qui faisait beaucoup du sel, et avec l'aguicheur, le teaser sur les cafés, on est absolument là-dedans. Là, moi, je trouve qu'il y a de l'humour dès le premier épisode, mais avec un seul registre que Lynch maîtrise parfaitement, qui était déjà présent dans les deux premières saisons de Twin Peaks, surtout la fin de la deuxième, c'est-à-dire une sorte d'humour de situation avec des dialogues extrêmement ralentis, dans une incompréhension mutuelle de gens qui essayent de communiquer mais qui n'y arrivent visiblement pas, dans des situations un peu saugrenues. Moi, je suis très 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 client. Le problème, c'est que je trouve que pour l'instant, il n'y a que ce registre-là sur la forme humoristique. Rien n'avance très vite, ce qui pourrait être à la longue peut-être lassant, voire monotone. C'est pour introduire un peu de débat,
Romain Burel. Parfois, j'ai ressenti dans certains plans...
Mais ça fait plaisir.
Voilà, exactement. Une espèce de complaisance vis-à-vis de lui-même et qui étire la sauce très longuement, notamment au pilote et puis aussi dans le quatrième épisode. Il y a quelque chose un petit peu... On nous fait de très...
Longue séquence dans le casino.
Et en même temps, ce temps-là est tellement inédit dans la série de télévision qui vont très très vite.
J'entends
aujourd'hui,
bien.
Un plan fait 3 secondes maximum, qu'il y a quelque chose aussi de jouissif de voir que lui
nous
peut se permettre
d'accord.
Plutôt que quelqu'un d'autre. Et lui, qui d'autre à part lui d'ailleurs pourrait le faire. Donc ça... C'est une critique et en même temps c'est quelque chose que j'admire chez lui. Moi j'en ai une autre de critique aussi, c'est la musique qui est un peu...
On va pas être d'accord.
Qui manque cruellement, je trouve, dans
cette... Mais vous rigolez, c'est le cadeau bonus de la saison, puisqu'à chaque fin d'épisode, nous avons
un
morceau sur la scène
musicale,
du Bang Bang Bar. Et alors, attendez d'écouter... Vous connaissez, vous, Au revoir Simone ? Vous êtes très très branché.
Évidemment.
Attendez d'entendre l'arc à la fin du quatrième épisode, c'est à tomber à la renverse. C'est quand même... Non, et la musique, elle est là.
Elle est seulement à la fin des épisodes, là où justement, j'étais avec Badalamenti dans les saisons précédentes, elle était vachement plus présente.
Elle était
beaucoup.
Énormément présente.
Elle était, oui, mais je trouvais qu'elle soulignait parfaitement le travail du metteur en scène. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui manque un petit peu. Que ce travail sur le son, avec des remixes étranges faits par Lynch, etc., m'empêche un petit peu de me balader ailleurs. Il y a quelque chose que je ne retrouve pas, en tout cas, des deux premières saisons. et du film dans celle-ci.
Là aussi, il y a peut-être un parti pris un peu trop rigoriste pour l'instant de dire la musique, c'est la chanson de la fin. Et, sauf qu'il y a une citation, pareillement dans l'épisode 4 du thème de Twin Peaks, à un moment qui nous fait monter les larmes aux yeux, je n'en dis pas trop. Mais c'est vrai, on peut entendre ça, mais vraiment les morceaux de fin, c'est quand même formidable.
Et en même temps, c'est plus le réalisateur qu'il était il y a 25 ans et que probablement il sait bien mieux aujourd'hui se saisir et manier lui-même la musique, qu'il a peut-être plus forcément besoin d'un compositeur pour accompagner son travail.
Iris Bray.
Moi, ce que je trouve, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait de la complaisance en fait dans ce qu'il fait. J'ai l'impression même que il y a un vrai regard distancé. C'est ça que je trouve fascinant, même sur qu'est-ce que c'est que le cinéma avec cette boîte qu'on a dans le premier épisode pour expliquer brièvement ce qui se passe à New York. C'est qu'un jeune homme doit surveiller un grand cube en verre où il ne se passe rien. Il y a beaucoup de caméras et lui est censé stocker les cartes de mémoire et les renouveler. Et donc on attend à voir quelque chose apparaître dans cette boîte-là. Et le moment où cette chose apparaît, c'est le moment où le jeune homme finalement invite une jeune femme et arrête de regarder finalement cette boîte qui est un écran et embrasse cette femme. Et à ce moment-là, on a un fantôme qui traverse le cube, puis qui arrive jusqu'aux deux personnes.
Et trois points de suspension.
Et je trouve que c'est assez clair. Il a vraiment envie de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le regard et qu'est-ce que c'est que de regarder un film et qu'est-ce que c'est que de regarder une série. Et donc, de cette mise en abîme.
Qu'est-ce que c'est que l'attente par rapport à l'objet aussi.
À l'objet, totalement. Et justement, c'est des scènes assez longues dans ce premier pilote de ce jeune garçon qui est juste là à boire du café et à regarder cette boîte vide. Je trouve que voilà, d'observer le vide, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces périodes de latence et même dans la répétition. Et je trouve qu'il y a une manière de jouer avec la répétition sérielle, avec ces visages qui ont vieilli, mais aussi avec de juste voir Dale Cooper qui refait toujours les mêmes gestes, même dans le casino, parce que j'ai vu cette scène-là. Je trouve que on ne sait pas vraiment en fait ce qu'on est en train de regarder, mais on est en train de regarder quelque chose.
Ouais, quelque chose qui nous aspire aussi. Mais peut-être pour finir, je suis absolument d'accord à ce que vous venez de dire, Iris Bray. J'ai essayé d'introduire un peu de dissensus dans notre conversation, mais alors, comme je le disais, contrairement à vous, je suis assez vieux pour avoir vu Twin Peaks sur la 5, présidée par Silvio Berlusconi. Et c'est vrai que le regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est que cette série soit diffusée sur Canal+. J'ai rien contre Canal+, mais j'aimerais bien savoir ce que ça donne une série comme ce Twin Peaks saison 3 diffusée sur une chaîne, une grande chaîne, on dit plus hertzienne maintenant, on dit de la TNT. Vous voyez, je me suis quand même adapté, je me suis mis à jour. Pour savoir une proposition comme ça, comment le grand public peut rencontrer une forme comme celle-ci. Et je serais très 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 curieux. Bon, pour rappel, parce que je l'ai vécu, la 5, ça a commencé le vendredi à 20h30, ça s'est fini le mardi soir à minuit, diffusion de Twin Peaks. Donc ça n'a pas marché du tout il y a 25 ans.
C'était très perturbé par la guerre en Irak.
Oui, enfin c'était perturbé par les annonceurs qui ne mettaient pas d'argent pendant la publicité de Twin Peaks. C'est surtout ça le problème de cette chaîne à cette époque. Le grand public et cette saison 3 de Twin Peaks.
Mais je pense que le grand public et la saison 3 des Leftovers, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des séries, à mon avis, qui sont assez difficiles d'accès, mais qu'elles soient sur OCS ou qu'elles soient sur Canal+, elles vont quand même toucher des gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une nouvelle génération qui ne connaît même pas Lynch, et de voir comment ils vont avoir accès à ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement contemporain dans ce que ça raconte, pareil avec The Leftovers, c'est-à-dire qu'on est dans des séries où finalement, on n'est pas addict, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe au prochain épisode. Limite, la question n'est plus là. Et donc, de réinventer ces formes-là avec des séries comme ça, qui deviennent des séries cultes et qui ont un vrai following en France et partout dans le monde, je trouve que ça dit quelque chose aussi de l'époque.
Romain Burel.
Oui, moi je crois que de toutes les séries, c'est probablement celle qui est le plus entourée d'une vraie mystique, c'est la série préférée des cinéphiles, etc. Je crois que ça peut rebuter les gens énormément. Je crois qu'il y a énormément de gens qui vont pas se sentir concernés. Et en plus, il faut avoir vu les deux premières saisons et éventuellement avoir vu le film et puis lu les livres, ceux du frère de Mark Frost et de la fille de David Lynch. Alors, au bout d'un moment, il y a quelque chose de très très pesant qui fait qu'on a peut-être aussi du mal à se dire, je vais me saisir cet objet qui est cette nouvelle série et la consommer entre guillemets comme on binge une série de par exemple Sense8 ou des choses comme ça, comme on en reparlera plus tard effectivement.
Bon, et à suivre, on verra, on essaiera de suivre, peut-être que à la rentrée, si nous sommes là, on parlera de Twin Peaks saison 3, l'ayant vu en entier, 18 épisodes, ça va prendre un certain temps, je comprends pas, ils vont arrêter pendant l'été, ils vont reprendre à l'automne, vous savez,
comment ça va se passer ? Je crois que c'est ça qui est prévu, mais par contre c'est assez vertigineux d'avoir fait 18 épisodes, moi ça me laisse sans voix.
nous sommes d'accord. Twin Peaks, saison 3, David Lynch, Mark Frost, ça commence ce soir, au moment où on parle, pour les heureux spectateurs et abonnés de Canal+.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right
À suivre dans la dispute, le bureau des légendes et Sense8. Tout d'abord, on suit Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Et ce soir, les sous-titres de la communauté.
Eh oui, alors, voulez-vous aider Netflix, comme le titrait Le Soir en Belgique? Voulez-vous accéder à un job en or, disait le site américain Combini? Ou voulez-vous être un traducteur uberisé, car c'est l'expression qui revient le plus dans la presse française? Tout le problème vient d'une décision, le mois dernier, de Netflix de lancer une campagne mondiale envers les particuliers pour traduire ses fictions. Un appel lancé via Internet il y a un mois et qui aurait, selon l'entreprise, déjà reçu des milliers de candidatures. Alors concrètement, c'est un test de traduction de 2 heures environ. Un algorithme ensuite déterminera le genre de série que l'on peut se voir confier. L'offre, elle, semble prendre aux États-Unis, en Belgique, en France aussi. Plusieurs traducteurs, même professionnels, auraient été approchés. Nous voulons que nos sous-titres soient fidèles à l'intention créative tout en étant attentifs aux différences culturelles, dit le site de Netflix qui présente ce travail comme un projet collaboratif avec des membres. Le problème pour Netflix, c'est simple en fait et assez logistique, avec près de 100 millions d'abonnés désormais. C'est un acteur mondial, ultra mondial, et il ne peut plus se contenter de proposer des sous-titres en 3 langues seulement, anglais, espagnol, portugais, mais dans 20 langues maintenant, dont le coréen du sud, le chinois, les pays arabes, les langues des pays arabes et du Maghreb, la Pologne aussi. Mais pour certains, Netflix ne passera pas comme il le voudra, puisqu'il est déjà, vous le savez, distributeur et producteur. Il se lance maintenant aussi dans la post-production, dans un circuit jusqu'ici bien tenu par des multinationales du sous-titre d'un côté et puis des traducteurs professionnels qu'elles emploient d'autre part. Alors les multinationales semblent neutralisées pour le moment, mais les traducteurs professionnels déjà échaudés, et on pourra en reparler si vous le voulez par ce qu'on appelle le fansubbing, hein, les sous-titres de fans mais illégaux, craignent de se voir écarter ces traducteurs. C'est ce que rappelle Alexandra Klinik dans Le Monde. Or, les tarifs pratiqués par Netflix sont assez bas en fait, 7 euros la minute de traduction de l'anglais vers le grec ou le roumain, 26 euros pour la traduction vers le polonais, là c'est pas mal, 30 vers le japonais, et 11 euros pour la traduction de l'anglais vers le français. C'est 2 fois moins que certains tarifs actuels en France. En France d'ailleurs, cette initiative est donc perçue comme ubérisation. Dans Télérama en avril dernier, c'était la présidente de l'Association française des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel, Juliette Delacruz, qui critiquait la méthode de sélection en trompe-l'œil selon elle. Le test, et disait-elle, est censé donner un panel de traducteurs de qualité. C'est possible, mais ce sont des algorithmes qui vont définir les résultats. Cela nous dérange. Comment un ordinateur peut voir si un traducteur a saisi toutes les subtilités d'une blague, par exemple? Et puis, plus globalement, elle dénonce une baisse de la qualité avec précisément le suremploi de ces multinationales de la traduction comme SDI Média en Belgique. Alors, concernant, pour terminer, la qualité, c'est assez difficile de donner autre chose qu'une impression personnelle à partir de ce que j'ai vu ou ce qui apparaît dans les sites internet, par exemple celui-ci, les sous-titres de la honte, un site justement dédié aux fansubbers, mais les malentendus sont nombreux et assez cocasses, vous allez voir, par exemple dans Scorpion, une série américaine, I'm Sorry Kid, traduit par Désolé mon garçon, où le kid en question est une femme, ou alors Wanna Grab a Bite, qui veut dire tu vas aller manger un morceau, traduit par Est-ce que tu veux une morsure, ou bien La Révolution industrienne dans Master of Sex, ou bien une personnage de la série 30 Rock qui se cogne et qui dit « Aïe mon groin » quand « groin » veut dire « laine » ou encore, pour terminer dans une autre, un compliment « tes mains sont aussi douces justement que celles d'un veau ». J'ajoute que les chaînes de télévision ne sont pas exemptes de ces petites erreurs. « Je la relevais quand il l'a laissée pour morte », dit un personnage dans la série historique franco-britannique The Collection qui est diffusée sur France 3. Nul doute donc qu'il y aurait besoin de plus de précision et qu'il faut se méfier des algorithmes, évidemment. Mais faut-il craindre une ubérisation du sous-titrage ?
Alors, bon, le fansubbing, c'est vrai qu'il y a parfois des contresens absolument énormes. Au-delà de ces douceurs de Manvaux, il y a vraiment des fois, ça dit exactement le contraire de ce qui est dit par le personnage. Ça, c'est quand on peut comprendre la langue, ce qui n'est pas mon cas, par exemple, pour le polonais ou le sud-coréen. Et je me disais, surtout en vous écoutant, qu'il vaut mieux sous-titrer Twin Peaks que Sense8, par exemple, parce qu'alors, à la minute, Twin Peaks, il peut parfois y avoir 4 minutes sans un mot. Donc là, ça devient plus rentable, finalement, pour le travail. Mais, et puis alors, toutes les subtilités d'une blague, je renvoie à toutes les traductions de Shakespeare, vers le français en tout cas, qui chaque fois essaye de ramener une strate de la subtilité, mais bon, j'entends bien que tous les dialoguistes ne sont pas Shakespeare. Tiens, Romain Burel, cette question des surtitres, sous-titres.
C'est compliqué de fournir un travail propre et quand les gens exigent de regarder des séries qui sont diffusées dans la seconde de leur diffusion aux États-Unis. Donc forcément, ça veut dire changer la donne. Maintenant, je pense qu'elle pourrait se faire d'une manière un peu plus respectueuse du travail des traducteurs, effectivement. Mais aujourd'hui, même sur Netflix, le travail de sous-titrage est pas très très bon, non. Et le travail de doublage est encore pire. Mais quand
j'ai pas essayé, tiens,
et moi qui ai un peu la curiosité de regarder
les pervers
en français, c'est assez catastrophique, notamment sur la synchronisation des boules, enfin des de la bouche, c'est quelque chose de terrible, quoi. Mais parce que il faut aller excessivement vite, quoi. On peut plus se permettre de traduire, de prendre un an pour traduire une série qui sera diffusée un an plus tard. Aujourd'hui, on est dans des délais qui sont tellement courts, comme je dis. En plus, effectivement, avec la compétition effrénée et illégale, donc des fansubbers qui font pas toujours un si mauvais boulot. J'aurais plutôt tendance à les défendre.
Je trouve ça formidable sur le principe. Hein. Bon, c'est illégal, on le rappelle, mais absolument. Enfin, je trouve ça très beau, ce sous-titrage par la communauté avec les noms évidemment toujours pas possibles, qui sont assez drôles.
Ils sont parfois très organisés aussi.
Il faut l'être pour pouvoir être aussi réactif.
3, 4, 5, 6, 7
pour finir. Généralement, c'est le lendemain. Alors souvent, c'est du québécois aussi pour nous français. Donc il y a des mots qui sont un peu étranges, mais qui sont à leur place.
Donc ouais, je trouve qu'effectivement la grille de tarif à annoncer n'est pas respectueuse, plus que éventuellement savoir si c'est un algorithme qui va choisir les choses, etc. Je crois que c'est
le même siècle, c'est comme ça,
mais effectivement je trouve que respecter le travail des traducteurs, en tout cas de leur salaire, ça serait la moindre des choses de la part d'une société qui gagne quand même pas mal d'argent, qui revendique 100 millions d'abonnés à travers le monde. Je pense qu'ils peuvent se permettre de payer à peu près bien les traducteurs.
Il faudrait, Iris Bray.
Oui, écoute, je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, ce qui me questionne, c'est qu'il y a toujours un nombre de signes qu'il faut respecter pour que la personne puisse lire. Donc, je me demande, les personnes qui ne sont pas formées à ça, comment est-ce qu'on fait? C'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, qui prend beaucoup de temps. Il faut savoir
vraiment manier
la langue. C'est vraiment un métier. Mais la traduction, c'est toujours trahir quelque part l'original. Mais si en plus, ce n'est pas votre métier, je pense qu'on va aller très loin dans les trahisons.
Oui, il faudra que l'algorithme choisisse d'éliminer tel ou tel segment de mots. Martinet.
Alors, le site, d'ailleurs, ne demande pas de diplôme de traduction, mais effectivement, il y a quand même un test qui est assez poussé. Quand je parlais des deux heures, c'était un des critiques que j'avais lu qui l'avait effectué et qui connaissait bien la langue aussi. Donc il y a quand même une vérification qui est importante. Ce qui est important aussi, parce que pour le coup, pour dire quelque chose de positif sur Netflix, ils vont créer pour la première fois une base de données mondiale sur les traducteurs et les traducteurs fins, disponibles. Parce que, comme on en a parlé, il y a effectivement des gros problèmes de décalage de traduction. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a aussi, et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, une explosion quand même du nombre de séries aux États-Unis. On en avait parlé peut-être pour le cinéma, mais là c'est quand même assez frappant. Je voyais quelques chiffres. Entre 2009 et 2016, le nombre de séries qui étaient produites par les GAFA, donc tous ces distributeurs qui ressemblent à Netflix, est passé de 4 à 96. Donc ça, c'est simplement pour la production. Je crois qu'au catalogue de Netflix, j'ai plus les chiffres, mais il y a 258 séries en tout au catalogue, 92 séries originales. Donc c'est quand même assez énorme. Au bout d'un moment, bien sûr, ça pose des questions de qualité, mais ce qui est étonnant, c'est de voir aussi, effectivement, vous le disiez Iris, un peu la sous-estimation permanente de cette question des sous-titres, alors même que eux-mêmes mettent l'accent sur la nécessité d'une qualité, d'une rapidité pour une diffusion plus large.
Moi, j'aimerais bien en fait qu'on puisse avoir accès aux traducteurs, c'est-à-dire que c'est comme quand on, par exemple, l'Iliade ou l'Odyssée, il y a plein de traductions, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à certains traducteurs que d'autres. Donc, pour une série, avoir 5 ou 6 traductions et voir un peu l'esprit littéraire qui nous ressemble le plus et pouvoir adhérer en fait à un traducteur ou une traductrice et le suivre sur toutes ces traductions, ça j'adorerais par contre.
Ouais, parce que rien n'est garanti effectivement d'une série sur l'autre, d'une saison sur l'autre,
d'un épisode à l'autre,
d'un épisode,
d'une séquence à une autre. Bah, c'est une très bonne suggestion. On va transmettre permettre à Netflix, qui continue effectivement son raz-de-marée aujourd'hui, House of Cards, est disponible. Nouvelle saison, vous le savez.
Depuis 9h ce matin, c'est ça?
Oui.
Bah oui, voilà. Il y en a quelques-uns. Bon, on continuera à parler de ces questions-là et l'autre. Nous, on aime les traducteurs. Et là, on parle d'une série en VF pour nous. Le Bureau des Légendes, c'est sa VO. La diffusion de la saison 3 a débuté sur Canal+. 10 épisodes de 52 minutes pour, je crois, enfin la seule série française de ce genre-là qui a le grand mérite de la régularité de sa programmation. Là où l'engrenage nous fait quand même lambiner 2 ou 3 ans entre chaque saison. La saison 6 est prévue pour l'automne. Ça fait 3 ans, donc, la saison 5 est passée. C'est quand même très dommageable. En tout cas, cette régularité, c'est le showrunner de la série, Eric Rochant, qui l'affirme comme essentielle. Il a bien raison. Enfin, visiblement, à l'écouter, ça, c'est quand même très compliqué d'aller contre le système de production français pour arriver à fournir. Le Bureau des Légendes, alors, pour rappel, c'est la section qui s'occupe des infiltrés de la DGSE. Ces infiltrés qui vivent donc parfois des années, des agents, des espions sous couverture dans un pays, souvent dangereux, pour y récolter des informations. On a connu au début de la saison 1 Malotru, parce qu'ils ont tous un surnom, c'est Mathieu Kassovitz qui joue ce rôle à la fin de son séjour en Syrie, où il venait de passer 6 ans. Depuis, bon, beaucoup d'eau pas très claire a coulé sous les ponts. Les deux premières saisons étaient insérées a posteriori des événements par cet agent. La saison 3 s'ouvre alors qu'il est prisonnier, le pauvre Malotru de Daesh, après avoir trahi son pays, rappelons-le, par amour pour Nadia El-Mansour. La force de la série, c'est la multiplicité des personnages et des intrigues. Cette saison 3, je pense que nous sert, encore une fois, beaucoup de péripéties.
C'est fini ta mission?
Ouais, c'est fini.
Et c'était quoi, en fait?
Je peux toujours pas t'en parler.
Bienvenue dans le Bureau des Légendes, le plus secret des services secrets.
Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Une légende est une fausse identité liée à une mission.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom?
Retour à la vie normale fait partie du métier.
Ça fait maintenant 52 heures que nous n'avons plus de nouvelles de notre clandestin à Alger.
On va retrouver Cyclone, je vais m'occuper de la formation de la nouvelle, tu peux compter sur moi.
Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin.
Si Cyclone bosse pour les Algériens depuis le début, nos hommes en plein Sahara sont dans la gueule du loup et on n'a rien vu.
Ok, on y va.
Une fois la mission accomplie...
Tu apparais ?
Ouais.
Cette légende doit disparaître.
Moi aussi.
Il peut être dangereux. Il a le syndrome du clandestin.
Qui est ?
Avancé masqué.
Mathieu Kassovitz.
Avec qui tu travailles ?
Jean-Pierre Darroussin.
Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire.
Léa Drucker. Jonathan Zakaï.
Pourquoi je suis là?
Sarah Giraudot.
Tu m'interroges comme si tu étais un policier.
Zineb Triki.
Identifiez-moi ce salopard.
Gilles Cohen.
Calme-toi, qu'est-ce qui se passe?
Il m'a demandé si je connaissais Paul Lefebvre.
Maintenant, je vais t'apprendre à te faire casser la gueule. Je vais te rentrer dedans.
Et moi, je fais quoi?
Je fais rien.
Le Bureau des Légendes, saison 3. La diffusion vient de commencer. Romain Burel, pour commencer la dispute.
Un casting exceptionnel, une série avec un showrunner, c'est-à-dire qui garantit une unicité de la série et un vrai travail sur le fond, un travail de documentation incroyable, paraît-il, la DGSE filmée comme on s'y croirait, etc. Et pourtant, moi, j'ai vraiment du mal avec les séries d'espionnage. Donc, je suis pas le meilleur client pour regarder ce genre de choses. Cette saison 3, et je la trouve clairement au-dessus des deux autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression. Déjà, la saison 2 était bien meilleure que la saison 1, qui, moi, m'avait vraiment, vraiment cassé les pieds. C'était vraiment que j'avais pas aimé du tout la saison 1. Je trouvais que la saison 2 était beaucoup mieux fichue. Et je comprends tout à fait l'utilité du travail de Brochant, sur la série, parce qu'il se voit à l'écran. Concrètement, il y a les bibles de personnages sont vraiment respectées. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, etc. Maintenant, si on n'est pas trop intéressé ou trop curieux des questions de géopolitique ou de choses comme ça, c'est quand même une série assez difficilement accessible. Et pourtant, c'est aussi la force de la série, c'est-à-dire qu'elle est d'une actualité assez incroyable. Là, on va se balader dans le conflit syrien. À un moment donné, il y a une petite séquence dans un épisode où la personne explique un petit peu ce qui se passe en Syrie, où sont les protagonistes, etc. Moi, quand je regarde le journal de 20h, je ne comprends rien. là, j'ai eu l'impression de comprendre.
Vous regardez le journal de 20h, bon.
Mais bien sûr. Donc, il y a la série, elle a des qualités. Maintenant, il y a quelque chose, moi, qui m'embête un petit peu aussi, c'est que j'ai vraiment du mal à accrocher au personnage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très désincarné, que ce climat d'espionnage où tout le monde se méfie de tout le monde, où il faut faire excessivement attention à ce qu'on dit, et encore plus à qui on dit, et voilà, rend l'atmosphère de paranoïa qui règne, fait qu'il y a quelque chose, je trouve qu'il y a... Je cherche un peu l'humanité, en tout cas, chez ces personnages, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à rentrer dans cette série, effectivement.
Bon, est-ce que vous avez un profil d'espionne, Iris Bray? Ça vous intéresse, les séries d'espionnage?
Alors moi, j'adore les séries d'espionnage.
Voilà, je
suis plus The Americans que Le Bureau des Légendes, ça. Même si ça n'a rien à voir. Mais
bientôt fini la saison. Hein.
Là, je sais. Ouais. Mais alors, je n'avais pas vu ni la première saison ni la deuxième saison. J'avais assez hâte de découvrir cette série dont tout le monde m'avait dit énormément de bien. Et je pense qu'il faut mieux commencer par le commencement parce que...
J'ai fait pareil que vous.
Voilà, j'ai trouvé ça vraiment difficile de m'attacher à ces personnages, de comprendre, et j'ai trouvé que ça manquait cruellement d'amour. Il y a énormément de distance dans tout ça. Je pense que c'est voulu, je pense qu'il y a... Et pourquoi pas, mais je trouve que c'est très difficile en fait de rentrer dans cette saison 3 quand on n'a pas connu Malotru ou Marina Loiseau avant. Il y a même un certain agacement en fait pour eux, je trouve... au début, qui s'estompe un peu au fil du temps avec Marina Loiseau. J'ai commencé à voir autre chose chez elle, ou même le personnage de Nadia, je trouvais, était peut-être celui qui était le plus complexe et que j'avais envie le plus de suivre. Mais oui, je trouve qu'il y a une certaine froideur visuelle et dans ce que ça raconte qui est un peu trop pour moi.
Ah oui, bah pourtant, alors j'ai lu effectivement notamment un ancien de la DGSE qui disait que la seule chose pas vraiment pas réalisée, c'était l'histoire d'amour entre un agent et quelqu'un qui était censé retourner. Je parle vraiment de termes d'espionnage. Que ça, c'était vraiment pas possible, que l'amour n'avait pas sa place dans les affaires d'espionnage. Alors, pour raison de sécurité, évidemment, parce que sinon, ça fait tout déborder. C'était un peu, d'ailleurs, la thématique des deux premières saisons. Alors, moi, j'ai donc, effectivement, j'avais pas vu Le Bureau des Légendes, j'ai vu la tout récemment, saison 1, 2, avant d'attaquer la troisième saison. Moi, je pense aussi que cette saison-là est vraiment la meilleure pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'on n'est plus dans cette succession de flashbacks, donc puisque c'était raconté a posteriori, je trouvais que ça alourdissait extrêmement la narration, et en plus que la voix off, celle de Mathieu Kassovitz, donc était assez plombante pour le coup, vraiment en plus trop explicative, redondante, etc. Cette saison 3, on est vraiment dans le présent de l'action, et pour moi je trouve ça bien, que ça fonctionne beaucoup mieux, surtout pour une série d'espionnage. Moi, j'aime les séries d'espionnage, contrairement à vous, donc je suis tout à fait friand de ces questions là et puis c'est étrange parce que je vous rejoins pas du tout sur les personnages qui pour moi sont, alors ils sont certes assez archétypaux, ils n'ont pas beaucoup de zones d'ombre, de complexité, mais moi je les trouve tous attachants, y compris parce qu'ils m'exaspèrent, comme Marina Loiseau par exemple, puisqu'on en parle, qui s'appelle Phénomène, non, dans son nom de code, me semble-t-il, qui est un personnage assez étrange, jeune fille, qui a l'air d'être, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, qui a l'air tout à fait innocente, qui a l'air d'avoir 16 ans et demi, alors qu'elle a sans doute une dizaine d'années de plus, qui en plus est une chercheuse, une scientifique de haut niveau, et qui joue beaucoup de ce regard de biche effarouchée, de ce sourire désarmant. Et malgré tout, je trouve qu'effectivement, ça commence véritablement à prendre, et ça produit un effet, parce qu'on ne sait jamais si pour le coup ils sont eux-mêmes, ils sont toujours en train de jouer. Il y a cet enfermement dans ce que c'est que d'être un espion, de devoir dissimuler en permanence, et ça, je trouve ça intéressant. Et là, vraiment, pour moi, la saison 3, ce qui me réjouit, c'est l'importance plus grande prise par le personnage de Marie-Jeanne Dutilleul, incarnée par Florence Loiret-Caille, et je trouve qu'elle, pour le coup, elle amène beaucoup de complexité à son personnage, ce qui a une sorte de sentimentalisme bien réel, et en même temps une froideur, un professionnalisme absolument à toute épreuve, qui lui fait prendre des décisions assez rudes. Et puis, sans trop divulgâcher, on sait depuis un certain temps, certes, mais quand même ça continue d'être efficace, qu'une grande série, c'est une série où des personnages importants disparaissent. Ce sera le cas dans la saison 3.
Ah bah, c'est vrai, j'ai pas dit grand chose, il y a 20 personnages, donc oui. Bah, c'est tout.
Mais pour rebondir sur Marina Loiseau, par exemple, oui. On sait donc qu'elle, elle a survécu en ce début de saison, puisque on sait qu'elle a vécu un grand traumatisme
en Iran,
et je trouve par exemple cette transition d'elle qui est en post-trauma, puis qui donc, on peut le dire ça quand même. Donc
elle est remplie là.
Voilà. Bah oui, mais tout immédiatement. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a aucune... je trouve que c'est un personnage qui pourrait vraiment... justement, cette duplicité, elle pourrait vraiment être creusée. On pourrait vraiment se demander à quel jeu elle veut jouer et finalement, qu'est-ce qui la rattache à l'espionnage et à cette facette de qui elle a envie d'être. Je trouve que c'est absent, en fait.
Ça va un peu trop vite.
Oui, ça va beaucoup trop vite. Et je trouve qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'ambiguïté sur ce désir, en fait, d'être double. Et c'est, moi aussi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans cette série et de toute façon dans l'espionnage.
Mais... Et ça, c'est pas du tout abordé, je trouve, ou en tout cas très très mal. Je trouve dans la série, effectivement, qu'est-ce qui motive ces gens à faire ce boulot-là qui est quand même ultra prenant.
La grandeur de la nation, mais ouais, ça ne vous effleure pas, ça,
Romain Burel. Hormis le patriotisme, je vois, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui...
L'adrénaline,
qui
est... l'excitation.
Oui, peut-être, mais en tout
mais
cas...
on ne la
en tout
ressent
cas,
pas.
Ouais, effectivement, c'est une série en plus assez lente qui... voilà. En plus... Iris soulevait quelque chose d'intéressant. Je la trouve en plus assez moche, cette série, pour dire les choses très clairement.
Ah notamment, bon, je trouve dur.
Entre les locaux de la DGSE et de la Commission européenne.
C'est pas glamour.
On a juste envie de se tirer une balle. Je comprends pas que les agents partent sur le terrain. Hein, honnêtement, moi, j'ai une seule envie, c'est me casser en Syrie aussi.
C'est pas les open space de Bobo Scandinave de Sense8, on est d'accord, mais ça reflète quand même une réalité. Ce sont pas des locaux de travail forcément extrêmement glamour, la DGSE de la Commission européenne.
Et une autre chose qui me dérange aussi, c'est que je ne comprends pas, à part nous expliquer ce que c'est que et ce travail de documentaliste qu'on ressent vraiment dans la série, dont je ne doute pas de la précision et des faits et des situations qui sont décrites, je trouve que je ne sais pas de quoi me parle la série. C'est-à-dire que, en tout cas, dans Homeland, par exemple, parce qu'on nous a vendu un petit peu un Homeland à la française, la bipolarité du personnage principal sert un peu de métaphore et de fil conducteur à l'espionnage et à même une certaine vision des États-Unis, etc. Là, cette série-là, à part le métier d'espion, il y a rien de vraiment très très transcendant finalement.
À part le métier d'espion, mais c'est le sujet en fait. Oui, alors c'est pas ce qui vous intéresse parce que Homeland c'est quand même beaucoup plus fantaisiste.
Je crois que c'est ça. En plus.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça pose la question. Ça pose une question très très intéressante. C'est à partir de quel moment vous faites un travail vraiment précis de documentation et à partir de quel moment vous prenez des libertés pour rajouter du drame et de la dramaturgie dans une histoire. Et je trouve que cette série manque de dramaturgie. Il y a quelque chose qui me je trouve que les personnages pas assez en tout cas incarnés, oui, effectivement.
Mais je pense que c'est un parti pris en fait très fort d'être l'anti-Homeland et je pense que du coup ça va plaire à certaines personnes et repousser d'autres.
Bah moi j'aime les deux, alors pour des raisons effectivement tout à fait différentes. Là, j'ai l'impression de voir vraiment les mécanismes de géopolitique qui moi m'intéressent, d'espionnage, de force en présence, de manipulation, de façon effectivement apparemment très bien documentée, c'est ce que disent tous et toutes qui s'y connaissent. Homeland, on sait très bien que les espions professionnels, ça les fait rigoler, mais nous, ça nous excite pour d'autres raisons.
Ça nous fait un peu plus vibrer, là on n'est pas dans la vibration.
Ah moi si, mais elle n'est pas de la même nature. Bon, je vous trouve dur avec le Bureau des Légendes, moi j'ai beaucoup aimé cette saison 3, cette série d'Éric Rochant qui est en cours de diffusion, elle aussi, sur Canal+.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute série, c'est Sense8, la série des sœurs Wachowski de Joseph Michael Straczynski. Alors on se souvient bien sûr que c'est en tant que frère que les cinéastes ont ébahi le monde entier avec la trilogie Matrix. On était au tournant du siècle, du millénaire. Ils ont imposé à ce moment-là à la fois une direction artistique et puis une patte visuelle, ainsi que des écrits extrêmement élaborés qui baignent toujours dans une narration, une fiction fantastique qui questionne notre rapport avec le réel. Voilà. Pour résumer un petit peu le propos, on retrouve bien sûr ces éléments dans Sense8, après que les Wachowski aient quand même perdu beaucoup de fans en cours de route avec des films de cinéma comme Cloud Atlas ou Jupiter. que je trouve assez effectivement dispensable. Le format série, elle leur convient-il mieux? Aux Wachowski, réponse dans quelques instants. Après, quand même avoir essayé de résumer le point de départ de Sense8 pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas la série, il fallait bien une première saison entière pour déployer cet univers-là. Pour faire vite, il s'agit de 8 personnes qui vivent aux quatre coins du monde, qui se retrouvent liées après avoir eu la même vision d'une femme se suicidant. Ils sont en fait des Sense8, des sensitifs, qui représentent des représentants de l'espèce de Homo sensorium, capable de se substituer les uns aux autres, où qu'ils se trouvent, ils sont en connexion physique, psychique, intellectuelle, sensorielle, émotionnelle. Et puis par ailleurs, ils sont quand même traqués par le BPO, en français, ça donne l'Organisation de Préservation Biologique, menée par un terrible médecin.
Rembrandt. His name is synonymous with masterpiece, and this, arguably, one of his greatest paintings. An iconic work of individuals setting aside their differences for a common good. But what we see is not what people saw hundreds of years ago. How we see changes, because our senses are evolving. Sensates, by their nature, are a threat to secrecy. I'm looking for a better future.
What's happening?
You have to stop it.
Do not trust any of them. It is not a game. This is a war.
Your life is either defined by the system or by the way you defy the system.
As long as we're together, I know that there's nothing we can do.
Who am I?
Who am I?
Who am I? You think you're hunting us? We're coming for you.
Oh, am I? Ça, c'est les sous-titreurs ont pu le décliner plusieurs fois parce qu'effectivement, les 8 se posent la question une dizaine de fois dans ce premier épisode, enfin, qui est le deuxième de la saison 3, c'est compliqué. Saison 2. Saison 2, parce que, enfin, il y en a eu un au milieu qui dure 2 heures. Bon, ouais. Bref. Cas particulier, hein, avec cette série, parce que je vois quantité de défauts, mais j'aime quand même. Je développerai dans un instant. Iris Bray.
Moi, c'est le contraire. Je vois quantité de qualité et j'arrive pas à accrocher.
Mais en fait, on ne doit pas dire la même chose, au final, peut-être. Allez savoir.
Alors, c'est vrai que on avait mis du temps à comprendre qui étaient ces 8 personnages et à comprendre l'intrigue. Et en fait, finalement, cette intrigue de savoir qui essaye de les tuer et pourquoi, je trouve que ça manque totalement d'intérêt. Et finalement, on ne regarde pas cette série pour ça. On regarde cette série pourquoi ? Dans la première saison, les scènes d'orgie, là, vraiment manquantes pendant la saison 2. Mais c'est quand tous ces corps ne font qu'un que finalement la série devient intéressante, même visuellement parlant. Alors là, elles font qu'un, non pas dans des scènes de sexe, mais dans des scènes où ils se battent ou dans des scènes où ils ont besoin d'être défendus. Cette nouvelle saison s'ouvre sur quelque chose de très fort, qui est tout un discours sur qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, l'oppression, en fait, qu'on peut ressentir quand on fait partie d'une minorité ou des personnes racisées ou même des questions de classe. Enfin, on voit en fait toutes ces luttes qui ne deviennent qu'une à travers ces 8 visages et ces 8 corps. Ça, c'est passionnant, mais j'ai l'impression en fait que c'est quelque chose qui est tellement discursif, c'est-à-dire qu'on est que dans... On a l'impression que Lana Wachowski a écrit... Et on entend son discours et on a des séquences extrêmement fortes, mais rien ne les lie entre elles. Donc je trouve que c'est une série extrêmement importante sur ce qu'elle raconte sur le fond. Après, je trouve ça extrêmement redondant et on aurait pu, je sais que je vais me faire taper, mais on aurait pu s'arrêter à une saison 1. Tout était déjà là. Alors maintenant, il faut que les idées prennent forme dans ces personnages. Et pour l'instant, moi, je n'ai l'impression que de n'entendre que des idées et de ne pas voir des personnages.
Personne va vous taper ici. Romain Burel.
Si, moi.
Je vous en empêcherai.
Mais
je ferai rempart de mon corps.
Merci. Alors moi, je trouve ça très salvateur que la série, que cette saison 2 passe du soap qui était en fait la saison 1 à quelque chose de plus thriller, parce que j'aurais eu du mal à me recogner des relations amoureuses aussi magnifiques soient-elles, filmées dans des tas de pays différents, etc. Parce que finalement, la saison 1, ça n'est que ça, ça n'est que des relations amoureuses. Donc je trouve assez intéressant qu'on creuse un peu cette histoire de connexion et le côté thriller. Moi, ce que je trouve vraiment sublime dans cette série, c'est bon, d'abord je la trouve très très belle, c'est-à-dire qu'effectivement on se balade un peu partout dans le monde et je la trouve visuellement vraiment très très forte. De deux, je trouve qu'elle creuse merveilleusement bien ce qui est le thème privilégié des Wachowski depuis le tout début de leur carrière cinématographique, qui est un peu là, allez, pour le dire vite, là la post-humanité. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est un peu plus qu'humain, et en plus, c'est une métaphore sur des choses qu'on vit toujours, qui sont un petit peu les réseaux sociaux, parce que ces gens sont connectés un petit peu comme on le serait éventuellement avec une espèce de Facebook mental qui nous permettrait en plus de ressentir les émotions, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Et en plus, je crois qu'il y a une réflexion un peu plus large et profonde sur ce qu'est le genre cinématographique ou sérigraphique. Chacun de ces personnages représente un peu un genre à lui-même. On a le film de kung-fu chez une jeune fille, on a le soap chez un couple homo, on a la série policière dans un policier, etc. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fin, assez malin et qui moi en tout cas me tient par haleine. Et tout le discours qui concerne les minorités, qu'elles soient de genre, raciales, etc. Moi, je trouve assez fascinant, assez frais. Il y a très très peu de séries qui arrivent en une seule comme ça. Ça pourrait faire Kougloff, mais arrive à vraiment aborder toutes ces questions avec parfois des moments de discours qui permettent vraiment d'aller au fond de choses vraiment très très intéressantes, de même transmettre de l'histoire sur ce que c'est que la vie des minorités et notamment à San Francisco, etc., mais aussi à Soweto ou des choses comme ça. Je trouve la série excessivement ambitieuse. Les personnages excessivement attachants. Je veux absolument savoir ce qui va devenir du couple que forme Lido avec son boyfriend.
Lido.
Très très vite, ça m'intéresse énormément. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau. Je trouve que cette série a énormément de qualité, même si cette saison 2, on parlait de redondance tout à l'heure, effectivement, il y a des moments où je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on repasse par des choses, des séances d'explication devant des œuvres d'art qu'on a déjà vues, qui étaient plutôt bien traitées dans la saison 1. Ces fameux moments d'orgie que je trouve vraiment, là, pour le coup, beaucoup moins forts que la saison 1 aussi. Et du coup, ce qui a déjà été montré ne devrait pas l'être dans cette saison 2. Et là, on repasse par des endroits où on a déjà passé, qui m'ennuient un petit peu.
Alors, c'est un des vrais problèmes formels, c'est-à-dire la façon de rallonger très artificiellement la durée des épisodes, notamment, alors là pour le coup, vous n'en avez pas parlé, mais la musique, l'utilisation de chansons, bon, chacun ses goûts, hein, mais qui ne sont pas forcément les miens, mais sur des scènes très gnangnan, Power of Love, très étirées, et ça vraiment, c'est un jukebox quand même, Sense8, et là, ça gonfle vraiment le minutage, et moi ça me gonfle aussi, mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais alors, cette série m'agace, mais aussi pour les mêmes raisons que je peux l'apprécier, c'est-à-dire que, évidemment, le discours qu'elle porte et les questions qu'elle pose sur la différence, pour le dire très simplement, ou l'ostracisation, ou la mise au banc de certains par une majorité. Évidemment qu'on peut qu'être intéressé et adhérer à ce discours très humaniste, même avant d'être transhumaniste ou post-humaniste. Et en même temps, ça se double de discours très souvent mièvres, de scènes très niaises, explicatives, faites pour nous faire pleurer. Mais moi, j'avoue que cette saison 2, parfois, ça me fait davantage rire que pleurer, mais parce que je trouve ça ridicule, en fait, ces grandes déclarations qui peuvent parfois émouvoir. Bon, on peut passer sur les invraisemblances de la série, mais c'est vrai que repasser par les mêmes fils narratifs, retrouver sans arrêt le personnage de cette mère de leur groupe, etc., on a du mal à voir une efficacité, alors que moi je suis très content qu'on soit davantage dans un côté thriller, parce que au moins, quand ça donne un peu d'adrénaline qui vous manque dans le Bureau des légendes, mais c'est très 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 réduit. La façon dont se termine cette saison d'ailleurs est un bâclage absolu d'une dernière séquence qui devrait être un climax. Et là, on s'est dit, pardon, j'ai raté un épisode. Là où ils pouvaient faire montre, les Wachowski, qui quand même savent faire de scènes d'action, de manipulation, là, c'est bâclé. Allez, on finit la saison et à bientôt.
Il y a un manque d'argent qui se voit un petit peu dans cette série-là.
Effectivement, moi, je me dis que ça coûte une fortune.
Il y a énormément d'argent, mais elle a coûté... Les Wachowski voulaient plus d'argent pour faire cette série-là, en tout cas, notamment la saison 2.
Bah non, il faut qu'ils arrêtent, parce que les moyens sont colossaux et très très bien utilisés, je trouve. Iris,
ouais. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Romain, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a une envie d'ampleur qui est très très forte et qu'on ressent, mais malheureusement, je trouve que... J'ai envie de parler de Jill Soloway une seconde et de I Love Dick qui vient de sortir sur Amazon, où justement, là, la théorie est toujours incarnée par les personnages. Donc, on n'a plus besoin de discours théorique puisqu'elle existe à travers des personnages qu'on aime. Là, les personnages ne sont pas assez forts pour incarner la théorie. Il faut que la théorie soit exprimée. Mais vraiment, parfois, je trouve que c'est presque... J'ai l'impression d'avoir un cours, en fait. J'ai l'impression qu'on est dans un truc d'éducation. Et je suis totalement d'accord. C'est nécessaire. Mais je trouve que ça pourrait être fait avec beaucoup plus de finesse. Et moi, ça devient... les moments, justement, où on sent que le climax va arriver, où la musique devient hyper forte, je trouve que c'est trop, en fait. J'ai l'impression que c'est... Justement, c'est Bollywood, quoi. Et j'ai l'impression que parfois, ce serait bien d'aller... juste un tout petit peu en dessous pour pouvoir être plus sensible à ce qui est en train d'être dit, qui est pourtant révolutionnaire et qu'on n'entend pas assez. Mais je trouve que la manière de régurgiter en fait le discours, pour moi, fonctionne plus.
Oui, bizarrement, parce que moi je pense qu'ils ont tort, en l'occurrence, de faire ces discours, parce que leur mise en scène, moi je pense que les personnages pourraient davantage exister sans que ces discours interviennent aussi régulièrement. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a une fois, deux fois, on a compris le message. Moi, je suis très admiratif des qualités de mise en scène qu'il y a dans Sense8, sauf que des fois, ils ont tendance peut-être à s'auto-admirer un petit peu dans leur virtuosité, mais bon. Je suis pas contre la virtuosité, Romain Burel.
Oui, moi cette virtuosité, moi me je trouve surtout qu'il y a quelque chose de vachement plus joueur, de beaucoup plus léger dans cette série qui est beaucoup moins lourd que dans les derniers films des sœurs Wachowski.
Oui, bien sûr, c'est évident.
Même si moi j'ai
lourd,
beaucoup d'affection pour un film comme Cloud Atlas, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus libre qui m'intéresse plus, et je trouve que là il y a quelque chose d'une dimension excessivement personnelle pour ce couple. Enfin, ces deux sœurs transgenres, donc j'ai l'impression qu'elles peuvent un peu exprimer à travers cette série qu'elles ne peuvent pas forcément faire, notamment qu'elles ne veulent pas faire, notamment en interview dans les médias.
Bon. Sense8, saison 2, de Lana surtout, mais quand même Lily Wachowski est présente, même si c'est Lana
c'est
qui est vraiment...
Lana,
oui, mais elle est quand même ne créditée. Elle n'est pas du tout créditée.
Ah non, c'est Lana qui était vraiment responsable de toute cette saison.
Bon, et Michael Straczynski, il est débarqué?
Non, il co-signe aussi.
Bon, mais je m'en réfère à Iris Bray. C'est disponible sur Netflix. On conclut avec le jeu de la dispute et un rappel du jeu d'hier au soir. Pour ce faire, Justine Dibling nous a rejoint. La question d'abord.
Malgré le succès mitigé de cette pièce, Amphitryon de Molière a fait l'objet de plusieurs réécritures contemporaines, dont Amphitryon 38 en 1929. Qui en est l'auteur? Et la réponse était Jean Giraudoux.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Pierre le Grand, un tsar en France. C'est Grand Trianon, château de Versailles, jusqu'au 24 septembre. Quelle est la question?
Poutine et Macron ont fêté le tricentenaire de la visite du tsar Pierre le Grand à leur manière. Ils sont donc les bienvenus pour répondre à notre question suivante. Quel écrivain français a écrit Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions, à visiter aussi la page La Dispute FC sur Facebook et le compte Twitter Dispute FC. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Anaël Pija, Frédéric Bonnet et Yasmine Niossi. À notre affiche, une spéciale consacrée à la 57e Biennale de Venise. Nous parlerons peut-être plus particulièrement, ça c'est sûr, du pavillon français, du pavillon allemand et de quelques autres expositions. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.